J'ai le plaisir de recevoir trois confrères ce soir pour cette tribune de la presse. Jean-Claude Bimoala, éditeur et directeur de publication du journal Climat Tempéré, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir, cher confrère.
Bonsoir.
José Brouteau, journaliste indépendant. Bonsoir, José.
Bonsoir Alain, bonsoir aux effets de Radio Okapi.
Josca Kaninda Nkole, éditeur du journal Le Millénaire et gérant de la radio Merveille qui émet à Bouya dans la province de l'Ituri. Bonsoir Josca.
Bonsoir confrère.
Voilà, avec mes trois confrères, nous aborderons deux thèmes. D'abord, Idem Kodjo, facilitateur du dialogue en RDC, a déclaré en début de semaine que ses assises devraient s'ouvrir incessamment avec ceux qui sont d'accord et prêts. Et pour ce faire, d'après l'ancien Premier ministre togolais, le comité préparatoire devrait être mis en place à la fin de cette semaine. Ensuite, comme deuxième thème, nous parlerons des syndicats indépendants de l'administration publique qui réclament à travers une pétition le départ du Premier ministre et du ministre de la fonction publique. Il reproche notamment à ces personnalités le renvoi des agents de l'État en fonction par le système de retraite et des révocations massives. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Commençons par voir comment la presse chinoise a traité ces sujets et bien d'autres qui ont fait l'actualité cette semaine dans cette revue de presse que nous propose Kéline Côté.
Bonsoir. Commençons ce journal des journaux par la conférence de presse d'Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique congolais désigné par l'Union africaine. L'agence congolaise de presse, par exemple, écrit dialogue politique mis en place du comité préparatoire d'ici la fin de la semaine. Et presque de la même manière, le journal L'Affaire écrit le comité préparatoire cette semaine. Et de l'autre côté, ce qui met plutôt l'accent sur la position du principal parti politique de l'opposition et de son président Étienne Tshisekedi, révélation d'Edem Kodjo, l'UDPS sera bel et bien au dialogue, titre Forum des As. Et assez proche de cette même idée, La Prospérité écrit dialogue, Tshisekedi répond à l'appel de Kodjo. Les différents médias mentionnés rapportent aussi que pour le facilitateur togolais Edem Kodjo, le dialogue devrait se tenir en deux semaines avec les trois composantes habituelles, majorité, opposition, société civile. On devrait y parler de tout, le monde est attendu, mais on commencera avec ceux qui sont déjà d'accord et les résidents pourront venir à tout moment. Forum des As et La Prospérité renseigne aussi que Steve Mbikaï ne cache pas son envie de faire même déjà partie du comité préparatoire de ce dialogue. Mais il y a aussi le député Justin Bitakwira qui, selon le Phare, réclame aussi de faire partie de ce comité préparatoire. Cependant, devant tout ce paysage, la plateforme La Dynamique de l'opposition, qui a toujours rejeté le dialogue, maintient sa position et selon le journal de l'avenue Loukou, ça, je cite, se méfie de Kodjo. La Dynamique considère que la mission conduite par Kodjo n'offre aucune garantie du respect de la Constitution de la République et n'obéit nullement à l'esprit et à la lettre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Changeons de chapitre pour parler de la pétition initiée par les syndicats indépendants de l'administration publique qui réclament le départ du Premier ministre et du ministre de la fonction publique. On peut lire sur www.radiocapi.net que ces syndicats reprochent à ces personnalités le renvoi des agents de l'État en fonction par le système des retraites et des révocations massives. Également la création des structures illégales au sein de l'administration publique. Allégation que rejette le ministre de la fonction publique, Pascal Issoumbicho, reconnaît cependant que le gouvernement a décidé de mettre en place des nouvelles structures pour rendre l'administration publique plus efficace.
Merci Kéline Côté. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité, il y a notamment cette pénurie du maïs dans l'ex-province du Katanga qui a poussé le gouvernement à supprimer les taxes à l'importation et certains frais douaniers exigés aux commerçants dans la vente du maïs. Cela pour permettre à ces commerçants d'inonder le marché de Lubumbashi. Jean-Claude Bimoala, éditeur et directeur de publication du journal Climat Tempéré, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. La RDC est un grenier agricole, le Katanga également, et se trouver dans une situation de pénurie de maïs, c'est quand même paradoxal.
Oui, c'est très paradoxal, mais on a pu glaner quelques éléments d'information sur place et il nous renseigne que il y a un opérateur économique installé de longue date au Katanga, de grande notoriété, acteur politique des Sirois, qui a réussi à organiser dans le passé la structure de la production et de la commercialisation de ce produit. Mais depuis quelque temps, cet opérateur économique a démissionné de son poste de gouverneur et a pris publiquement ses distances du pouvoir sur les questions de gouvernance et du respect du délai constitutionnel. Il se sent aujourd'hui en insécurité. Ses médias sont réduits au silence. Ses avions sont interdits de survol de l'espace aérien congolais. Ses domiciles sont fréquemment perquisitionnés. Il fait des accidents suspects sous le regard des agents de la sécurité publique. Et tout opérateur économique qui se sent dans cet état, il fait quoi ? Il prend son argent, il va le garder en lieu sûr.
Pour ne pas le citer, vous voulez parler de Moïse Katoum.
Exactement. Et en économie, on dit un opérateur économique, ça c'est même le président du Sénat qui le dit souvent, un acteur politique très influent qui dit souvent un opérateur économique est un gibier peureux qui prend fuite au premier coup de fusil. Et voilà, l'État a tiré les premiers coups de fusil et les opérateurs économiques prennent fuite. Les conséquences sont là, incalculables. Pas de maïs sur les assiettes de Katangé. Les banques, la monnaie nationale s'effrite. Les banques, tous. Et voilà, l'État a tiré les premiers coups de feu. Et voilà ce qui arrive sur le monde économique.
José Bouto, journaliste indépendant, cette situation ne remet-elle pas à la surface la problématique d'organiser une véritable économie à la congolaise?
Oui, Alain, vous avez tellement raison. Parce que tout un État dépendre des individus en ce qui concerne le manger ou les besoins quotidiens de sa population, c'est trop risqué. Hein. La preuve, elle est là. Et puis, comme vous l'avez dit, cette production à l'air. La RDC, c'est un pays à vocation agricole. On a des espaces, je ne sais même pas ce qu'est devenu le service national de Kanyamaka. C'est au Katanga. Hein. Mais tout ça, il y a le parc agro-industriel du Cameroun qui a commencé ici. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer à répliquer ça dans des provinces pour faire des grands ensembles industriels en termes d'agricole pour les populations. Parce que là, c'est la survie de la population. Si elle doit dépendre d'un individu, d'un groupe d'individus, c'est très dangereux pour un pays. Hein. Alors là, on doit se poser des questions sur la politique agricole qu'on a dans notre pays et cette histoire de taux de suffisance alimentaire dont on nous parle à chaque moment, quoi.
Josca Kaninda, un collègue éditeur du journal Le Millénaire et gérant de la radio Merveille qui émet à Bounia dans la province de l'Ituri. Un autre sujet, c'est cette annonce du porte-parole du gouvernement sur la reprise de l'opération Likofi pour lutter contre le banditisme urbain et périurbain sur l'ensemble du territoire national. Dites-nous, à Bounia, comment vous vivez ce phénomène ?
À Bounia, comme partout au Congo, les vols armés se portent très bien. La ville de Bounia, par exemple, et ses environs, il ne se passe pas une semaine ou deux sans qu'on parle de cambriolage, de plaquage dans une ou l'autre maison. C'est un phénomène qui est devenu quotidien ici chez nous, à Bounia. Je pense que l'opération doit être encouragée pour qu'il soit organisé dans le respect des droits de l'homme, parce que parfois, les services de l'État profitent des occasions pareilles pour faire commettre des bandits.
Alors, en plus de ça, Josca Kaninda, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui fait l'actualité à Bounia, dans la province de l'Ituri, où vous vous trouvez?
La semaine qui vient, c'est pas cher, mais a été dominée par des actualités dans les sud de Irumu, où la communauté Emma et Lendibindi a failli, les deux communautés ont failli encore se rentrer dedans parce que c'est suspectant. Il y a des sujets Emma qui ont été enlevés par des inconnus et leur communauté a estimé que comme la FFPI qui est essentiellement composée des Ndibi, opère encore dans cette région, ce sont les FFPI qui auraient enlevé ces gens. Le conseil spécial a tempérer les ardeurs en évitant les uns et les autres, à ne pas revivre le phénomène de conflit tribal qui avait créé des tensions ici dans la province de l'Ituri. Aussi, il y a la TAMOI, l'association des taximens moto de l'Ituri, une association qui regroupe les chauffeurs taxis, on peut les appeler comme les conducteurs des motos qui font les taxis, parce que chez nous à Bounia, ce sont les motos qui font les taxis. Ils sont en conflit au niveau de leur comité, alors le groupe est divisé en deux. Voilà les deux actualités qui ont dominé un peu l'actualité chez nous en province de l'Ituri.
Merci Josca Kaninda, Jean-Claude Bimoila. Nous allons terminer ce tour de table par cette triste nouvelle. Vous le savez, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a tiré sa révérence, Timothée Kombon, qui s'y est mort ce jeudi dans un hôpital français où il était admis pour des soins depuis plusieurs jours, affirme le bureau de la Chambre basse du Parlement. Un mot sur l'illustre disparu.
Oui, je m'incline devant sa mémoire, mais je vais pour nos auditeurs raconter une petite anecdote, juste quelques minutes. Timothée Kombo était le président de du bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui devait préparer l'élection du bureau définitif. Et dans le mode de choix de ce bureau, il est prévu que c'est le doyen d'âge de l'Assemblée des élus qui devait d'autorité ou des droits prendre la présidence. À ce titre, il s'est présenté candidat et élu finalement comme président. Mais on nous dit que tel n'était pas le cas. Timothée Kombo n'était pas le président, n'était pas le doyen d'âge. Le plus âgé s'appelle Mwando Simba. Et vous savez qu'au sortir de ces élections, il y a eu une forte contestation de l'opposition, notamment de l'UDPS sur la crédibilité, le déroulement, le processus chaotique de ces élections. L'UDPS a résisté en bloc tous les résultats, a demandé à ses députés de ne pas siéger à cette assemblée, et le pouvoir avait demandé à Mwando Simba de se rétracter pour qu'on présente finalement un candidat de l'opposition, montrer à l'opinion que l'UDPS n'avait pas pignon sur rue, qu'il y avait d'autres sons de cloche qu'on pouvait écouter. Et ce monsieur a été donc élu président de l'Assemblée, mais je constate que il est entré dans l'histoire par la petite porte, parce que professeur d'université de son état, il n'a pas pu se taire devant la vérité. Voilà ce que l'histoire retiendra. Les historiens vont éplucher les dossiers et vont nous dire davantage ce qui s'est passé exactement pour que celui qui n'était pas le doyen d'âge soit finalement reconnu par tous comme celui qui devait présider au bureau de l'Assemblée provisoire, du bureau provisoire de l'Assemblée nationale.
Alors cette anecdote, elle est vérifiable, Jean-Claude Bimoila, ou on la prend en conditionnel?
Elle est vérifiable, les historiens n'ont qu'à aller éplucher, connaître la vraie date de naissance de M. Timothée. Merci. Et la vraie date de naissance de M. Mwando Simba. Et d'ailleurs, pour récompenser
ce calcul politique,
Timothée, qui n'avait aucune assise comme député de l'opposition, s'est fait élire comme deuxième vice-président, et Mwando Simba, qui était lésé, a été promis comme premier vice-président en récompense au calcul politicien de l'époque. Voilà.
Merci. José Boroto, un mot également sur la disparition de Timothée Kombo ici.
Bon, moi, ce que je retiens de l'honorable Kombo, c'est que c'est un politicien qui s'est assumé. Ouais, il s'est assumé, c'était un élu du peuple, et puis il a levé l'option de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, nonobstant ce que lui recommandait son parti, et puis il n'est pas le seul. Hein. Ils sont une quarantaine d'élus de peuple qui siègent déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est... Parfois, on est très habitué à ce genre de dilemme, et on doit faire le choix. Et je crois qu'il a eu à faire le bon choix. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS, finalement, revient, je ne dirais pas à la raison, mais revient sur le feu de la rampe qu'on a mis, avec cette histoire de dialogue politique et tout. Quoi. Donc, finalement, si comme on n'avait pas pris ce n'avait pas opté pour cette façon de faire les choses, peut-être qu'il serait resté dans l'anonymat. Et voilà.
Merci.
Donc, c'est ce que je retiens de lui.
Merci. Josca Kaninda Nkolé, un mot également sur la disparition de Timothée Kombo Kessi.
Ah, moi, je voudrais bien rester africain. La mémoire de mort doit la saluer toujours. On ne dit pas du mal de celui qui est déjà parti. Je pense que M. l'honorable député qui est ministre du Paris a milité longtemps dans l'opposition. Il a été élu sous le label de l'opposition. Moi, je pense que son âge est dans, il a pensé peut-être prendre sa retraite politique en acceptant les postes qu'on lui avait donnés. C'est tout ce que je peux définir.
Voilà, donc l'âme de l'honorable Timothée Kombokisi repose donc en paix. Vous le savez, le facilitateur du dialogue en RDC, et c'est notre premier thème de ce soir, Edem Kodjo a déclaré en début de semaine que le chemin du dialogue politique en RDC est tracé et ses assises devraient s'ouvrir incessamment avec ceux qui sont d'accord et prêts pour ce dialogue. L'ancien premier ministre Togoli a aussi indiqué que le comité préparatoire devrait être mis en place à la fin de cette semaine. On écoute Edem Kodjo dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
Si on veut un dialogue inclusif, il faut viser à avoir tout le monde. Alors la grande première étape, c'était savoir si l'UDPS marchait avec nous. Aujourd'hui, c'est le cas. Eh bien, moi, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons essayer de mettre en place le comité préparatoire dès la fin de cette semaine. J'ai besoin encore d'avoir un peu de temps pour consulter même ceux qui ne sont pas chauds pour démarrer le dialogue avec nous. Parce qu'en tout état de cause, ils auront leur place parmi nous. Parce qu'il y a un dialogue inclusif et le dialogue doit demeurer inclusif. Mais on ne peut pas non plus rester indéfiniment sans avoir la moindre perspective. C'est la raison pour laquelle nous laisserons toujours la place pour nos frères, dès qu'ils en auront exprimé le besoin, venir s'asseoir avec nous et on travaillera tous ensemble.
Jean-Claude Bimola, éditeur et directeur de publication du journal Climat Tempéré, un hebdomadaire. Voilà, j'y arrive, qui parlait à Kinshasa. Edem Kodjo, dans sa première conférence de presse, a quand même annoncé plusieurs aspects intéressants. Commençons par le caractère inclusif de ce dialogue qui pose déjà problème. Il y a une frange de l'opposition qui n'est toujours pas d'accord pour participer à ces assises.
Oui, malheureusement, et c'est cela le constat. Il n'y a ni inclusivité ni unanimité, parce que manque d'inclusivité, c'est une grande phase de l'opinion publique, à savoir l'opposition et une partie importante de la société civile dit toujours non à ces dialogues. Et même au sein de la partie qui a accepté ce dialogue, il n'y a pas d'unanimité. On ne connaît pas la taille de cette assemblée, on ne connaît pas non plus comment constituer le comité provisoire. Il y a beaucoup de zones de friction qui peuvent faire en sorte que les résultats et même les déroulements de ces dialogues soient sujets à caution. Mais de toutes les façons, je retiens pour ma part que pour le politicien congolais, faire appel à un médiateur international, c'est un échec, parce que il y a des institutions dans ce pays. En plus, l'expérience de faire appel aux médiateurs internationaux n'a pas toujours été heureuse, cette expérience. Vous vous souvenez, il y a quelques années, M. Wade qui était venu ici et qui a qualifié la classe politique congolaise d'immature. Mais souvenez-vous, quel type de politicien a-t-il été, lui? Il est sorti par la toute petite porte, tentant de modifier la constitution. Et Edem Kodjo lui-même, il a une histoire. Il a été premier ministre d'une dictature. Donc je pense que pour l'honneur de notre démocratie, on ne doit pas faire appel à des gens comme ça, qui ont falsifié l'histoire de l'Afrique, qui n'ont pas permis, falsifier c'est trop dire, qui n'ont pas permis de faire des avancées importantes dans leur pays, venir nous apprendre des leçons de démocratie. Voilà ce que je pense. Mais de toutes les façons, il y a chacun a son agenda dans ces dialogues. Pour la majorité, dialogue égal, éviter la guerre et régler les questions chaudes de l'actualité congolaise. Pour l'UDPS, ce n'est pas la même chose. Dialogue égal, comment aller aux élections avant, dans le respect des délais constitutionnels. Et pour la dynamique de l'opposition, dialogue, ce n'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est une tripartite qui est aussi un dialogue, qui est aussi un dialogue entre opposition, majorité et société civile. Donc vous voyez, ça sera difficile de concilier tout ça, ces points de vue, parce qu'au départ, on n'est pas d'accord, on est d'accord sur rien en fait.
José Boroto, journaliste indépendant, Edem Kodjo affirme que l'UDPS marche avec nous, dit-il. Serait-ce un atout pour lui?
Oui, c'est un atout, hein, parce que bon, moi je me dis que l'opposition sans l'UDPS, j'en ai pas une, hein. à partir de peine, c'est constitué une sorte de caution morale pour tout ce qui s'est dit opposition au Congo. Hein, vu le combat qu'il a mené depuis plus de 30 ans maintenant. Alors moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que vient de dire Jean-Claude. Hein, Jean-Claude, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la lecture qu'il fait de Dan Kodjo. Dan Kodjo, c'est quand même un monsieur respectable. Il a été secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine au lieu en son temps. Et alors, comme il a été premier ministre aussi, il ne faut pas dire qu'il était comme il était premier ministre d'une dictature et qu'il n'avait pas de poigne politique pour pouvoir... essayer de concilier les vues des Congolais. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience, c'est des sages de l'Afrique aussi, il fait partie des sages de l'Afrique aujourd'hui. Et puis les territoires de l'immigration, c'était partout, hein, c'était pas seulement au Togo, c'était partout en Afrique, c'était une sorte de mode à l'époque. Alors, nonobstant tout ça, j'aimerais vraiment dire, Alain, que concernant cette. Cette histoire d'unanimité, c'est pas possible que ça se fasse. Parce que même que je n'avais qu'à se référer à, comme a dit Jean-Claude, moi là, moi je suis d'accord avec lui, je n'avais qu'à se référer à Abdoulaye Wade ou à Moustapha Niasse, et ils sont suffisamment outillés pour ceux qui aient de la mentalité de la classe politique congolaise. Ils l'auraient dit sûrement ce qu'il doit faire, quoi, l'attitude qu'il doit avoir vis-à-vis des politiques congolais. Parce que je constate déjà qu'au niveau déjà de ceux qui ont accepté de participer à ces grandes parts au dialogue, ils commencent déjà à se tirer, hein, à le débat sur les pieds. Donc moi je pense que à tout prendre, Alain, ce dialogue risque d'accoucher d'une tuerie, comme on dit, quoi.
Alors,
déjà au niveau du comité préparatoire. Ouais.
Josque Kaninda, un collègue éditeur du journal Le Millénaire et gérant de la radio Merveille Bougna, c'est un échec le fait que, qu'il y ait un médiateur international, dit Jean-Claude Bimoala, on est d'accord sur rien. Est-ce que vous pensez finalement que l'issue de ce dialogue n'accouchera que d'une souris?
Moi je pense que toutes les parties sont d'accord sur quelque chose, une rencontre. Les noms sont différents, il y en a qui parlent de... C'est une rencontre, tout le monde veut une rencontre, dialogue ou pas, mais une rencontre. Les ceux qui ne veulent pas du dialogue veulent une tripartite. Ceux qui veulent du dialogue sont opposés par rapport à l'objet. Ils sont d'accord pour une rencontre, mais ce sont ils deviennent plutôt par rapport à l'objet. C'est l'objet qui fait la divergence. Et moi, j'estime que la dynamique de la salle est donc, s'ils se retrouvent ensemble, ils finiront par dégager un objet qui va satisfaire à tout le monde. Moi, j'encourage qu'il y ait dialogue pour peu que ces dialogues soient inclusifs. Parce que l'histoire nous démontre que toutes les fois qu'on a osé de faire des dialogues sans inclure tout le monde, on a recommencé. Il ne faut pas reprendre les mêmes choses pour recommencer. Prenons l'exemple de 2014 ici, on a organisé, les opposants demandaient les dialogues, de pouvoir organiser les protestations nationales. Aujourd'hui, nous sommes encore en train d'organiser les dialogues. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas fait l'inclusivité. Je me rappelle encore à Saint-Titi, quand on est parti, là-bas, l'MST est rentré avec le gouvernement pour aller à Matadi faire un conclave. Après les conclaves, il y a eu encore Saint-Titi 2. Il ne faut pas que les négociateurs qui sont venus puissent faire du chantage en disant qu'ils vont commencer les dialogues avec ceux qui vont prendre et ceux qui ne viendront pas, ils vont les retrouver en route. C'est comme ici, ils faisaient du chantage sur la classe politique. Je pense qu'il a le devoir de convaincre tout le monde et de vider les inquiétudes des uns et des autres à son sujet. Parce que toutes les parties ne sont pas pour sa présence. Et lui doit vider les inquiétudes des uns et des autres et les convaincre pour qu'on ne puisse pas combattre une chose et puis reprendre encore la même chose plus tard. L'histoire nous montre clairement que là où il n'y a pas eu inclusivité, on a toujours repris et c'est la même l'État qu'on va encore dépasser pour organiser quelque chose et après la recommencer encore. Il ne faut pas permettre que le Congo puisse être un pays
déterminé
de recommencer.
Jean-Claude Bimoala, Josque Kaninda a dit que son affirmation selon laquelle ces assises devraient s'ouvrir incessamment avec ceux qui sont d'accord et prêts pour ce dialogue, Eden Kodjo ferait du chantage. Est-ce que cela ne pourrait-il pas se retourner contre lui à un certain moment?
Oui, mais celui qui est appelé pour faciliter ces dialogues a déjà certaines appréhensions. Il a déclaré, par exemple, je ne suis pas venu au Congo pour violer la Constitution, mais la respecter. Mais en sus de cette déclaration, voilà ce qu'il dit le lendemain à la presse. Le même Edem Kodjo dit qu'à son avis, il serait difficile il serait difficile de voir les élections s'organiser dans les délais constitutionnels. Mais comment un facilitateur a déjà des points de vue alors que les gens sont venus justement pour parler de cette question? C'est que lui-même a déjà un point de vue. On a l'impression qu'il vient rouler pour une frange de l'opinion publique contre une autre. Parce que lui, c'est un facilitateur et sont le partenaire au dialogue qui vont décider finalement de l'issue des décisions importantes qui devront être prises pour le bien de ce pays. Mais lui-même a déjà des points de vue et je pense que la méfiance d'une grande partie de la classe politique peut être justifiée par les déclarations qu'il a faites à l'issue de sa conférence de presse.
José Moreau, toi, est-ce que vous partagez ce point de vue de Jean-Claude Bimoala selon lequel par ses déclarations Edem Kodjo se mettrait dans une posture inconfortable?
Bon, en partie, hein. En partie, je partage le point de vue de Jean-Claude, mais je me dis que Edem Kodjo, il n'est pas né de la dernière pluie, hein, il est réaliste. Quand il affirme que chaque jour qui passe fait en sorte que le respect du délai constitutionnel en termes d'organisation d'élection devient hypothétique, c'est la vérité, ça. C'est comme les nez sur les visages, hein, tout le monde le sait. Même ceux qui ne jurent que par le départ de Kabila au 20 décembre de cette année, ils savent aussi que les élections, c'est pas évident qu'elles soient organisées dans les conditions actuelles. Donc là, Edem Kodjo, il fait de la, comme on dit, de la réelle politique, quoi. Il ne faut pas oublier que c'est un politicien. Et tout ce qu'il dit, enfin un politicien, comme disait mon grand-père, c'est quelqu'un qui change d'avis à tout moment. Voilà.
Alors, José Bouto, tout à l'heure, Josca Kaninda disait que toutes les parties veulent la même chose, mais le disent en des termes différents. Est-ce que la classe politique congolaise, vous parliez tout à l'heure de la réelle politique que faisait Edem Kodjo, la classe politique congolaise refuserait-elle de voir la réalité en face?
Oui, en fait, c'est cacher le visage avec une main, hein, tu vois, un peu à l'air. C'est ce que fait la classe politique congolaise. Elle le sait elle-même, hein, et c'est voilà la face parce qu'elle connaît. Elle connaît où est-ce qu'on va aboutir finalement. Parce que c'est sûr que, moi je vois pas si ce dialogue s'était né, l'issue serait que on doit s'organiser pour que les élections se fassent dans des conditions les meilleures pour chacun d'entre eux. Et dans les conditions meilleures, c'est pas que ça se fasse d'ici le 20 décembre. Voilà. Donc, je pense que la réelle politique, les politiques congolais, ils savent ça. Mais bon, ils font semblant de l'ignorer ou c'est un discours juste pour la consommation, peut-être extérieure, pour leur base, entre guillemets. Mais intérieurement, ils savent que c'est pas possible. Parce que là, on a des sérieux problèmes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore commencé la révision du fichier électoral. Bon, on va faire le truc de quel fichier? Des fichiers de 2011 qui ont posé problème. Je ne sais pas. Si on les organise aujourd'hui, on va les organiser comment, Alain? Et tout le monde le sait. Et quand faire la révision du fichier électoral, ça prend combien de temps? Scientifiquement, ça peut prendre combien de temps? Enfin, je ne sais pas, à vous peut-être de me le dire. Leur moralité, c'est difficile. On est déjà à la mi-avril, donc d'ici là, on entre au mois de mai, et puis il va rester combien? 6 mois. Bah, dans les élections, dans les 6 mois qui suivent ici, à moins qu'elles soient des élections vraiment chaotiques, et puis voilà.
Alors, Josca Kaninda, quelle chance peut-on accorder à Edem Kodjo pour que sa mission soit un succès?
Moi, je pense que Edem Kodjo doit faire tout pour demeurer neutre. Et même s'il a la réelle politique, c'est pas lui de déclarer ce qu'il déclare. C'est au politicien congolais de se rendre compte que ça devient hypothétique. Ce n'est pas à lui de dire que c'est devenu hypothétique. Il doit demeurer neutre et il doit faire tout, comme je disais, tout pour guider les inquiétudes des uns des autres et les encourager à venir au dialogue. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas du dialogue, moi je pense que c'est de la bonne politique. Ils doivent mettre la barre très haut pour que leur point de vue soit considéré et quand ils viennent au dialogue, ils soient considérés avec un peu plus mieux que. Ils venaient comme ça, comme des petits enfants qui viennent au dialogue. Ils mettent la barre très haut, mais je sais qu'à la longue, ils finiront par accepter de venir au dialogue. Parce que l'expérience de se voir, même quand il y avait une division du Congo qui, d'après, ne voulait pas du dialogue, on a mis plus d'une année, et après, le dialogue a eu lieu. Moi, je pense que le médiateur neutre, qui doit être neutre, éviter de se mêler, de dire des choses qui doivent être dites par les Congolais. Et s'il agit ainsi, il convainc tout le monde, il rassure tout le monde, je crois qu'il finira par organiser ce dialogue-là. mais si il se met à organiser à la voie ce dialogue et laisser les autres en dehors du dialogue, je vous rassure qu'après ce dialogue-là, il y aura un autre.
Jean-Claude Mimola, il y a le médiateur qui a le facilitateur qui a commencé son travail, mais entre-temps, il y a la majorité présidentielle qui a initié une pétition pour demander à la Cour constitutionnelle d'interpréter l'article 70
oui.
de la Constitution.
Oui, ça me paraît vraiment malheureux, parce que je pense que c'est que l'opinion a envie de savoir aujourd'hui, s'il n'y a pas élection, pourquoi il n'y a pas eu d'élection ? C'est ça qui est important. En 5 ans de gouvernance, je pense que les gens qui sont au pouvoir doivent rendre compte pourquoi nous n'avons pas pu, pourquoi il n'y a pas d'argent pour les élections. Mais vous savez, en démocratie, nous sommes un État, la République démocratique du Congo. Les élections, c'est le seul mode d'accès au pouvoir. Et donc, les dépenses pour les élections sont des dépenses qu'on dit en droit, des dépenses imprescriptibles. C'est comme la guerre. Un président peut venir dire qu'on ne peut pas faire la guerre parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas d'armée. Non ! La guerre, c'est mobiliser tous les moyens disponibles pour sauver un État. C'est comme les élections, on peut venir dire qu'on ne fait pas les élections parce qu'on n'a pas d'argent. C'est moralement incompréhensible. Je ne sais pas à la classe politique où est-ce que nous sommes en train de partir. On ne peut pas venir de vendre une idée comme ça à l'opinion qu'on n'aurait pas les élections parce qu'on n'a pas eu d'argent. Comme un chef de famille ne vient pas dire à la maison, on ne mange pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'argent. Non. Le chef de famille doit aller se battre par tous les moyens pour ramener quelque chose à la maison et dire à ses enfants, voilà, il n'y en a pas assez, mais voilà ce que nous pouvons faire. Nous pouvons quand même manger, dormir et nous réveiller demain.
José Bouto, avant que l'on clôture ce thème, Jean-Claude Mimola a dit que la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi il n'y a pas eu élection. Dans l'hypothèse où il n'y en aurait pas, qu'est-ce que vous répondez à cette frange de la population qui pense plutôt qu'il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il n'y a pas élection ?
Non, ça c'est la grande question, hein. C'est vraiment la grande question, et malheureusement la Constitution ne l'a pas prévu. Hein. Nulle part dans la Constitution c'est prévu, au cas où il n'y avait pas élection, qu'est-ce qui se passerait. Je ne sais pas si ceux qui ont eu à écrire cette Constitution n'avaient pas vu cet écueil-là, et qu'ils aient laissé la situation pendante comme ça. Mais je reviens un peu sur la démarche de la majorité de demander à la Cour constitutionnelle d'interpréter l'article 70. Et ça me démontre déjà quelles intentions la majorité a. Hein, voilà, parce que l'article 70 dit que le président reste en place jusqu'à la remise de l'office avec le nouveau président élu. Or là, ce n'est pas le cas. Donc tout ça, c'est par rapport à l'article 75 aussi, qui stipule que, en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim jusqu'à l'organisation des nouvelles élections. Mais nous, on n'est pas comme à Haïti où c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution qu'au cas où il n'y avait pas d'élection, c'est telle personne qui va prendre, qui va gérer le pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Donc, Alain, tout ça, c'est comme je disais tout à l'heure. Jean-Claude a tout à fait, sur ce point, Jean-Claude a tout à fait raison. Les élections n'ont pas eu lieu, ne vont pas avoir lieu. Tout le monde sait pourquoi elles n'ont pas eu lieu. Et d'où vient le problème? Je te viens l'autre jour à un politicien sur votre radio d'ailleurs qui disait que les responsabilités étaient partagées entre la majorité, l'opposition, la société civile, je ne sais pas trop. Mais alors, tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Alors, gouverner, c'est pouvoir, comme on dit. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays. C'est ça la grande question, alors.
Surtout sanctionner, c'est ce que le peuple attend.
Jusqu'à Kaninda, nous allons terminer par vous ce premier thème. Entre la démarche initiée par la majorité pour demander à la Cour constitutionnelle d'interpréter l'article 70 dont José Bouto a donné le contenu tout à l'heure, et cette démarche par rapport au dialogue, n'y aurait-il pas une certaine contradiction, comme le pensent certains observateurs?
Non, je crois que le gouvernement veut faire une suite en avant. Le gouvernement, nous savons tous bien qu'il n'y a pas eu d'élection parce qu'il n'y a pas eu d'argent. Il n'y a pas eu d'argent parce que le gouvernement n'a pas mobilisé. C'est l'Assemblée nationale qui devait en principe interpeller le gouvernement et sanctionner les éventuelles personnes qui n'auraient pas permis au pays d'avoir l'argent nécessaire pour les élections. Ils vont demander l'interprétation de la Constitution. C'est juste pour préparer déjà qu'est-ce qu'il faut faire s'il n'y a pas élection? Et il va déjà trouver le moyen de faire passer leur opinion par rapport à ce qui sera fait s'il n'y a pas élection. Je pourrais décider l'autre fois que nous devrions regarder les dialogues dans le sens de ce qu'on doit faire s'il n'y a pas élection pour éviter au pays d'entrer dans un chaos. Parce que, comme disaient les confrères là-bas, si on doit aller dans les réels politiques, il devient pratiquement hypothétique d'organiser ces élections dans les délais, vu ce que la CENI doit encore faire. Je crois que le dialogue aussi doit aller dans le sens de dire qu'est-ce qu'il faut faire s'il n'y a pas élection. Parce que le gouvernement prend déjà de l'avance à ce sujet.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Les syndicats indépendants de l'administration publique réclament le départ du Premier ministre et du ministre de la fonction publique. Pour ce faire, ils collectent des signatures auprès des agents de l'État depuis le 12 avril. Il s'agit d'une pétition que SIARP entend introduire auprès du Parlement pour obtenir la révocation du Premier ministre Augustin Matata Ponyo et de son ministre de la fonction publique. Rachidi Kayombo revient sur les griefs contre le chef du gouvernement et le ministre de la fonction publique.
Nous avons d'abord la dernière lettre du ministre Pascal Izumichi lui-même, qui l'adresse au chef de l'État, avec copie à leur regroupement syndical qu'ils appellent INAP. Que nous avons joué, n'est-ce pas, à la pétition. C'est 10 août 2012, où le premier ministre Matata donne l'ordre, n'est-ce pas, de renvoyer les agents d'État en fonction par les retraites et des révocations massives, de manière à engager ce que lui appelle les jeunes professeurs talentueux en créant des directions dites standards qui ne sont pas conformes aux lois, parce qu'il n'y a aucune loi qui institue ça. Il a même commencé déjà à recruter les agents fonctionnaires de l'État au mois de janvier dernier, 410, d'une manière cavalière, en ne respectant pas les lois de ce pays. Donc nous pensons que sur ce point-là, tous les élus doivent prendre leurs responsabilités pour mettre, n'est-ce pas, l'État en sécurité et ne pas créer des troubles sociaux.
En réaction, le ministre de la fonction publique rejette toutes ces allégations. Pascal Issoumbicho reconnaît cependant que le gouvernement a décidé de mettre en place des nouvelles structures pour rendre l'administration publique plus efficace. Il rassure que la réforme engagée sous l'autorité de la primature respecte la loi et le statut qui régissent l'administration publique. On l'écoute.
Il a été décidé de mettre en place de nouvelles structures qui permettent que cette administration redevienne efficace. C'est ce que nous appelons les directions standards. Et la mise en place de ces directions standards a conduit à une révision de cadre organique qui mettra en évidence un certain nombre d'effectifs supplémentaires pour certains ministères et déficitaires pour d'autres ministères. J'ai écrit, je pense que c'est la lettre à laquelle ils font allusion, j'ai dit que ceux qui sont éligibles à la retraite, c'est une occasion et nous devons mettre à la disposition les moyens pour qu'ils aient à la retraite, c'est tout ce que les éligibles attendent. Et donc, ma lettre et la réponse du Premier ministre va dans le même sens, m'instruisant de tout mettre en œuvre effectivement pour que la carrière des agents et fonctionnaires de l'État soit protégée.
Quelque part, il dit que l'argent qu'on prépare pour payer ces agents qui doivent partir à la retraite ne représenterait que $500 selon lui.
Ça respecte la loi.
Voilà, c'est un dossier signé Jacques-Yves Molima. José Moto, vous êtes journaliste indépendant. Cette question, cette polémique, ne remet-elle pas à la surface, une fois de plus, la problématique de la réforme de l'administration publique qui semble traîner le pas en RDC?
Oui, c'est vraiment le grand problème avec notre administration. Et tout le monde sait que l'administration congolaise est malade. Ça, tout le monde, au moins nous tous, on est unanime sur ce point-là. Mais quant à la thérapeutique à administrer pour que cette administration reprenne des couleurs ou pour qu'elle soit plus efficace, bon, la réforme en soi, c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que moi, dans mon exemple, j'ai un oncle, mes parents c'est des fonctionnaires, j'ai pas mon oncle paternel, quand vous avez ça fait plus de 60 ans maintenant, plus de 55 ans qu'il est fonctionnaire de l'État, il a le droit de se reposer quand même, après d'avoir rendu de bons services à la nation, mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas le mettre à la retraite, parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Et ce que j'aime pas, c'est un peu cette façon de parler du ministre qui dit que, qui accepte effectivement, qui accepte les gens qui disent que ce sera des 500, je ne sais pas, c'est des $500, quelque chose comme $500 qu'on doit remettre à quelqu'un qui va à la retraite. Et pendant tous ces temps, la caisse de sécurité sociale, elle est où? Vous comprenez? Mais alors, pour ce qui est de la démarche syndicale, moi je trouve qu'elle n'est pas très intéressante parce que je ne pense pas que l'État puisse faire une réforme comme ça, sans s'en tenir au texte, quoi. À ça, s'en tenir au texte. c'est peut-être une réforme, je ne sais pas. Et puis nos syndicats aujourd'hui, c'est un peu compliqué, la façon de fonctionner. Il y a une qui marche avec l'État, il y a une autre qui s'oppose, donc là, on ne sait plus rien comprendre ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est que chacun de nous, chacun des fonctionnaires de l'État, a droit à une retraite et une retraite honorable par rapport au service qu'il a rendu à l'État. Et rendre l'administration plus efficace, c'est une chose très intéressante. Tout le monde en a besoin. Il ne faut pas que les gens fassent 8 heures de travail et non qu'ils fassent 8 heures de travail comme c'est fait actuellement au niveau de la fonction publique. Alain.
Merci. Josca Kaninda Nkolé, éditeur du journal Le Millénaire et gérant de la radio Merveille Bounia. Je rappelle en passant qu'il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Il faut mettre à la retraite les agents et fonctionnaires de l'État, mais l'État n'a pas d'argent. La solution pour vous passerait par quoi?
La question pour moi passerait par l'assainissement de l'administration publique. Vous savez, ici à l'intérieur, il y a vraiment des services qui doivent avoir 10 postes organiques. Vous trouvez, on a engagé 400 personnes, parmi lesquelles les MU, d'autres matriculés non payés. Il y a des gens qu'on appelle ici les Makoudis, là, des gens qui ont des numéros matriculés, mais qui n'ont pas des salaires. Et ça compris. Le même gens qui dit qu'il y a pléthore, le même gens, les mêmes politiques engagent les gens sans suivre les normes. Et c'est ce qui fait que si on n'a pas assaini, et ça fait un problème. Vous vous rappelez qu'en 2005, je me rappelle, il y avait plus ou moins 500 000 agents. Aujourd'hui, nous en avons 1 million. Ce sont les mêmes politiciens qui avaient déjà commencé la réforme à cette époque, qui ont porté encore le plus de souplice des agents de l'État. Moi, je crois qu'on doit commencer par l'assainissement, voir les postes organiques, mettre les agents qui sont dans ces postes. Il y a même de nombreux jeunes, je ne pourrais pas dire seulement les vieux, de nombreux jeunes qui sont matriculés, qui n'ont même pas de salaire. Ils peuplent les bureaux de l'administration où il y a trois tables et vous trouvez 20 personnes, des autres sont debout et dans le véranda. Donc, il faut d'abord assainir avant de passer à autre chose. Parce que mettre quelqu'un à retraite avec 500 dollars, quelqu'un qui est à Bounia, qui doit rentrer dans son banc de donateur, vous lui donnez 500 dollars, il va rentrer avec famille et enfants, comment il va s'y prendre?
Jean-Claude Bimola, éditeur et directeur de publication du journal Climat Tempéré, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Quels sont pour vous les préalables pour que cette réforme de l'administration publique puisse réussir?
Non, je pense que la réforme a été trop longue. Et en matière de réforme...
C'est un processus, dit-on.
C'est un processus, mais il doit être court et bref pour qu'on sache lire les résultats de cette réforme. La réforme de la fonction publique a commencé en 2002, vous imaginez. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Mais qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui reste encore à faire? Même l'identification de fonctionnaires, on n'y est pas parvenu. Identifier tous les fonctionnaires de l'État, on n'y est pas encore parvenu. Donc je pense qu'il y a des responsabilités, et la plus grande responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Parce qu'on ne peut pas faire une réforme avec les moyens des autres. Non, c'est une réforme sui generis. C'est nous qui constatons que nos administrations ne marchent pas, c'est nous qui devons chercher le moyen de financer cette réforme.
C'est aussi une question de souveraineté.
C'est une question de souveraineté. Et c'est là que nos politiques ne sont pas moralement correctes. Parce que une réforme comme celle-là, je pense qu'on devait refuser l'argent des bailleurs de fonds et nous concentrer sur nous-mêmes pour nous en sortir. Parce que les bailleurs de fonds, mais il suffit que vous ayez un problème comme maintenant. Ils bloquent leur vol, ils n'ont plus d'argent. Comment vous allez faire face à cette réforme? Et donc c'est cela, une réforme trop longue, illisible, difficile à comprendre les étapes parcourues, difficile à évaluer. Et donc, elle me semble être un échec, il faut le reconnaître. Et il faut recommencer quelque part pour aller de l'avant. Mais bon, quant à faire tomber le gouvernement ou le ministre sur base de pétitions des syndicats, non, on sait que pour faire tomber un gouvernement ou un ministre, c'est pas comme cela qu'on procède. Je pense que ce sont des moyens de pression simplement qui permet de mettre le phare de l'opinion sur cette question pour que les gens finalement se posent la question, évaluent la réforme et on puisse tirer les conséquences de ce qu'on a déjà fait, ce qui reste à faire.
Alors une conclusion par rapport aux deux thèmes qu'on a eu ce soir, une brève conclusion, on va déjà terminer l'émission.
La paix sociale, c'est très important. La paix dans la fonction publique, c'est très important. Les questions économiques sont essentiellement liées aux questions politiques. Quand vous ne soignez pas la politique, l'économie s'en suivra. Et les résultats sont déjà là. Notre monnaie ne se porte plus bien. Les banques, tous. Le bien de première nécessité sur les marchés. Hausse de prix. Et donc c'est cela. C'est ce lien inaliénable entre l'économie et la politique.
Merci. Josca Kaninda Nkolé, votre conclusion également.
Moi, je pense que par rapport au dialogue, j'encourage les uns les autres à aller au dialogue. Les dialogues sont là, oui, mais peuvent, avec la dynamique de la salle, aller vers le bien du peuple congolais. Par rapport au retraité, c'est bien de retraiter quelqu'un, mais le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il puisse vivre après sa vie professionnelle et atteindre l'administration publique en commençant par maîtriser les effectifs.
Merci. José Boto, conclusion.
Ouais, moi, c'est plus par rapport à la problématique de l'efficacité de notre administration publique, hein, parce que là, vraiment, je suis de tous mes voeux que cette administration puisse changer. Parce que ce qu'on voit quand on va dans le bureau de l'État, c'est pas évident. Là.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse est terminée pour aujourd'hui. Réalisation Kevin Couté, à la technique Sylvain Matundu, supervision Martin Sebujangwe, présentation et coordination Alain Roumouchige. Bon week-end à vous.